Sandrine. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on va parler du plastique, des vêtements aux bâtiments, en passant par les emballages, les transports. Le plastique est absolument partout dans notre quotidien. Mais que devient-il une fois jeté? Incinération, enfouissement, recyclage, fabrication de plastique biodégradable, ces options sont-elles réellement pertinentes alors que chaque seconde, nous fabriquons 11 tonnes de plastique par seconde, j'ai bien dit. C'est plus que tout autre matériau fabriqué par l'homme. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Bonjour Nathalie Gontard.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'INRAE, donc c'est l'INRA, hein, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et vous travaillez en tant qu'ingénieur depuis 30 ans.
Non, je suis chercheur.
Chercheur, pardon. Depuis 30 ans.
Chercheuse,
sur le... pardon. Chercheuse. Depuis 30 ans, vous travaillez sur le plastique. Vous publiez Plastique, le grand emballement aux éditions Stock, et vous allez nous expliquer pourquoi le plastique n'est plus du tout fantastique, comment nous sommes dans une fuite en avant et dans l'aveuglement, et pourquoi il faut couper le robinet du plastique. Nous serons également en ligne dans quelques instants avec Edem Dalmeda, qui est directeur général d'Africa Global Recycling, une entreprise basée au Togo et présente dans la sous-région, qui est spécialisée dans la gestion, le recyclage, la valorisation des déchets, et qui évidemment est confrontée au problème du plastique. Et également Mélanie Grignon, responsable d'équipe projet gestion des déchets et aménagement urbain à l'AFD, l'Agence française de développement. Et quant à vous, les voisins et les voisines, on attend bien sûr vos réactions. Quelles mesures pour limiter l'usage du plastique? Sachez, emballage alimentaire, vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Et je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Helmut est à Kinshasa, en RDC. Il y a beaucoup trop de plastique à Kinshasa, des sachets, des bidons qui jonchent le sol, les rivières, très inquiétant. Moi, j'évite les jus qui se vendent en bidon plastique et je refuse très souvent les sachets quand j'achète quelque chose dans une boutique. Si aujourd'hui, les conséquences de la pollution environnementale ne nous effraient pas, quoi d'autre nous effraiera demain ? Demande Helmut. Ousmane est à Ségou, au Mali. Je limite ma consommation de plastique en refusant les emballages superflus dans les commerces et pharmacies. Mariam Attawa au Niger. Autrefois, nous dit Mariama, nos mamans allaient au marché avec un panier. Les choses ont changé avec l'arrivée des sachets. À chaque fois que tu achètes quelque chose, on t'en donne un. Aujourd'hui, ma maman garde les sachets pour les réutiliser. Est-ce que c'est une bonne chose de réutiliser des sachets? D'ailleurs, je vous pose d'emblée la question, Nathalie Gontard.
C'est toujours mieux que de les jeter, mais je pense qu'il est encore bien mieux de les refuser, tout simplement.
Et Mariama ajoute qu'elle utilise des sacs, certes en plastique, mais épais, qui s'abîment moins. Il faudrait du plastique biodégradable. Ici, on n'en trouve pas. On ne trouve pas de sacs en tissu, surtout, nous dit Mariama, alors qu'il y a pourtant des tailleurs à tous les coins de rue qui pourraient les coudre. Miguel est à Kinshasa et nous dit « Moi, je pense qu'on ne devrait pas interdire les emballages plastiques. Ce n'est pas le plastique qui est le problème, mais plutôt la gestion de ce plastique. » Eh bien, c'est tout l'objet de notre émission, justement. Je ne sais pas si Nathalie Gontard est d'accord avec vous, Miguel, hein, Nathalie ?
Non, pas vraiment.
Ouais. Alors, on va voir pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et que pour vous, la question, ce n'est pas la gestion du plastique, mais c'est bien le problème du plastique en lui-même. Moustapha est enseignant en école primaire à Mopti, au Mali. Il nous dit « On ne peut pas se passer de plastique dans les zones rurales. Autrefois, les femmes récupéraient des sacs de sucre ou de riz, qui étaient d'ailleurs souvent en papier ou en toile de jute, pour aller au marché ou transporter des aliments ou des calebasses. Mais tout cela est bel et bien fini. » Voilà, vous nous appelez maintenant au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Que vous inspirent ces témoignages qui sont arrivés du continent africain? Le plastique est allé très très vite en Afrique.
Le plastique est allé très très vite partout. Hein. En moins de 50 ans, on est tous envahis dans tous les pays et surtout tous les secteurs d'activité utilisent énormément de plastique. Moi, ce que ces témoignages m'inspirent, c'est d'abord une source d'espoir, parce qu'on sent qu'il y a quand même une vraie prise de conscience et des efforts pour les refuser, pour ne pas les utiliser, etc., ou pour les réutiliser. Et ce que cela m'inspire aussi, c'est une grande tristesse de voir tous les matériaux alternatifs comme les sacs en tissu qui ont disparu. C'est quand même incroyable qu'on ne puisse plus trouver de sacs en tissu au Niger, je crois. C'est ça, hein, ouais. C'est Maria qui nous a...
Alors, il faut bien préciser tout de même que les pays riches, chaque habitant consomme chaque année 100 kilos de plastique. C'est 20 fois moins pour un habitant d'un pays pauvre. Donc, pour nos auditeurs là, qui se sont exprimés, le problème n'est pas leur consommation de plastique qui est bien inférieure à la nôtre en Europe. Pourtant, nos auditeurs voient beaucoup plus le plastique à l'état de pollution que nous ne le voyons en Europe, où nous ne voyons pas le problème parce qu'il est invisible à l'œil nu.
Parce qu'il est masqué. Parce que nous avons fait en sorte que nos déchets ne nous polluent pas visuellement. Il y a des systèmes de collecte. Je pense que tous les consommateurs maintenant sont extrêmement avertis sur le fait qu'on ne jette pas du plastique dans l'environnement. Il y a des circuits de tri, de retraitement, même si, et on en discutera un petit peu plus tard, ces procédés de retraitement ne sont pas ce qu'on peut dire, on ne peut pas les appeler satisfaisants, c'est clair, mais disons qu'on ne les a plus ou beaucoup moins visuellement.
Vous citez un chiffre...
Ce qui ne les empêche absolument pas d'exister.
Vous citez un chiffre édifiant dans votre livre, Nathalie Gontard, depuis que le plastique existe, en gros depuis l'après-guerre, 9 milliards de tonnes produites. 9 milliards de tonnes produites, dont 2,5 milliards qui sont toujours en cours d'utilisation, qu'on voit là sur la table du studio de RFI, hein, où la moitié des choses sont en plastique. 1,5 milliard incinérés, donc il reste 6 milliards de tonnes de plastique qui sont où, si elles sont ni utilisées ni incinérées?
Alors ce sont des plastiques qui sont quelque part dans notre environnement. Ce sont des plastiques qui ont été enfouis dans des décharges, dans des stations plus ou moins organisées en fonction de l'époque à laquelle ils ont été enfouis. Mais il est clair que ces 6 milliards sont dispersés dans la nature, dans notre environnement, même si on ne les voit pas. Et surtout, si on ne les voit pas, parce que je pense qu'on y reviendra un petit peu après aussi, le plastique devient dangereux lorsqu'on ne le voit plus, pour tout dire.
Et pourquoi cela ?
Parce que le plastique a un comportement qui est très différent de toutes les autres matières. Toutes les autres matières que nous utilisons. Donc la grande majorité des matières sont capables de réintégrer ce que l'on appelle des cycles biogéochimiques, c'est-à-dire le papier, le tissu, le bois, etc., qui vont être digérés par les micro-organismes de notre environnement pour réintégrer le cycle du carbone naturel, hein, et donc être photosynthétisés. Et puis il y a d'autres matériaux comme le verre ou le métal qui, eux, vont se solubiliser lentement pour reminéraliser les eaux, les terres. Le plastique, lui, se comporte complètement différemment. Il se fragmente très lentement et plus il devient petit et plus il voyage dans tous les compartiments de notre environnement lorsqu'il atteint la taille microscopique. Lorsqu'il devient un nanoplastique, il peut même pénétrer dans nos organes, dans les organes des êtres vivants. Et ce n'est pas tout. En voyageant, il a la capacité d'absorber, de se charger en polluants divers et variés. Et tout le danger du plastique réside dans cette capacité à se fragmenter, à persister très longtemps dans les organes vivants et à pouvoir relarguer certains composés qu'il aura absorbés.
Alors, le plastique est vendu comme emballage alimentaire, donc tout le monde s'est dit c'est sans danger pour la santé puisque c'est vendu comme emballage alimentaire. Vous nous racontez qu'il y a des substances anti-condensation qui sont rajoutées sur les couvercles en plastique de nos carottes râpées, de la cuisse de poulet qui est dans la barquette pour que ça empêche l'apparition de buée sur les parois des emballages pour permettre aux clients de bien voir le plat qu'il est en train d'acheter. Finalement, on nous présente des sachets plastiques biosourcés, biodégradables, etc. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on découvre que le plastique est un problème, y compris lorsqu'il est vendu comme étant adapté à nos usages alimentaires ?
Parce qu'il y a une grosse confusion sur les risques liés au plastique. En fait, il faut bien voir que le plastique, dans la vie du plastique, il y a trois étapes. La première étape, c'est sa fabrication. La deuxième étape, c'est son usage. Et la troisième étape, qui est malheureusement celle qui dure le plus longtemps, c'est l'étape après usage. Et tout ce qui concerne l'utilisation, par exemple, c'est quelque chose où on a quand même notre société à investir pour acquérir des connaissances en termes de dangerosité lors de l'utilisation, etc. Il y a des réglementations, des législations, des contrôles. La première partie aussi, pour la fabrication de l'emballage, on connaît très bien l'impact environnemental, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Par contre, tout ce qui se passe après usage, là, notre société n'a pas anticipé pour acquérir les connaissances nécessaires pour bien comprendre les impacts sur l'environnement et sur la santé de ce plastique une fois qu'il a été utilisé. Et donc c'est tout le phénomène, c'est tout ce dont c'est tout ce que je viens de décrire avec le plastique qui se fragmente, etc.
Dans l'air, hein, dans la mer, partout.
Que l'on peut retrouver partout, les terres, les eaux, les airs. Et ce qui est terrible, je dirais, c'est que, en fait, on n'a tellement pas anticipé ce risque que les analyses d'impact environnementaux actuelles ne disposent pas des connaissances pour le quantifier. C'est-à-dire que lorsqu'on analyse l'impact environnemental, lorsque l'on fait ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, eh bien, tout cet impact du plastique post-usage sur le long terme, le plastique qui se fragmente, qui voyage, qui absorbe, etc., eh bien tout ça, ce n'est pas pris en compte. Donc le plastique est toujours favorisé par rapport aux autres matériaux.
Ce sont donc bien ces 6 milliards de tonnes qui sont quelque part sur la planète.
Qui sont en train actuellement de se fragmenter. On en retrouve déjà un petit peu partout. Dans les airs, les eaux. Une récente étude médicale a montré que plus de 60% des placentas humains étaient contaminés avec des microplastiques. Mais ce n'est que le début, puisqu'on utilise ces plastiques depuis une cinquantaine d'années. Or, le plastique peut mettre bien plus longtemps pour se retrouver sous forme de microplastiques. Donc, on commence tout juste, tous ces plastiques stockés, on commence tout juste à les retrouver dans notre environnement sous forme de microplastiques.
Et on commence tout juste, et la fuite en avant continue, parce qu'il faut bien dire que ce plastique, ça a été une invention quand même géniale, que notamment pour des pays en voie de développement, vous l'expliquez bien dans votre livre, on peut monter une usine de sacs plastiques, c'est la taille d'un camion, d'ailleurs c'est pas tellement plus cher, on a des pellets de plastique qui sont des granulés blancs, et que l'on va pouvoir façonner relativement facilement pour produire des sacs, pour produire des boîtes, etc., y compris donc pour des pays qui avaient peu de systèmes industriels. C'est bien ça, Nathalie?
Bien sûr, je crois qu'il est important de rappeler que le plastique, avant de devenir un matériau inquiétant, est toujours d'ailleurs un matériau fantastique. Hein. C'est un matériau qui est très peu cher, qui est léger, résistant à l'eau, et surtout, je crois que le gros atout du plastique, c'est qu'on peut lui donner la forme que l'on veut, la couleur que l'on veut, et ce, de façon extrêmement facile et peu coûteuse.
Les voisins et les voisines, on attend bien sûr vos réactions. On continue notre discussion avec Nathalie Gontard qui publie Plastique, le grand emballement, qui est chercheuse spécialiste du plastique. On attend vos réactions. Quelles mesures pour limiter l'usage du plastique? Sachez, emballage alimentaire, vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Et tout de suite, je vous propose d'écouter le message d'un auditeur qui nous a posté sur notre compte WhatsApp. Ce message, il vit aux États-Unis. Écoutez-le.
Bonjour, 7 milliards de voisins. Je m'appelle Fadel, je vis à Seattle, aux États-Unis. Ça fait bientôt plus de 22 ans que je suis sur le territoire américain. Je suis togolais. Je travaille dans une compagnie des poubelles. Et je peux vous dire que le plastique, c'est le plus difficile à recycler. Ici, aux États-Unis, il n'y a même pas de débat. Le plastique est nocif. C'est vilain, c'est méchant. Ça a détruit la planète et on a perdu des tas d'argent. Ça cause des accidents. Quand on va à vitesse avec un camion de, disons, 30 tonnes, et le plastique s'envole et puis ça se colle aux vitres. Ça crée beaucoup de dangers. Il y a une ville ici, une ville qu'on appelle Bellevue, dans l'état de Washington. Et c'est une ville vraiment très coquette qui a peut-être la côte d'une ville comme San Francisco. On peut se comparer, une ville très propre. Quand on a négocié ce contrat avec cette ville, le plastique était vendable. On vendait ça à la Chine. Du coup, il y a 5 ans, la Chine a refusé de prendre le plastique non recyclable. Seul le plastique était l'élément nocif que la Chine ne voulait pas. Parce que les petits sachets, là, ça ne les aidait pas. Les verres, l'aluminium, le papier, tout ça, là, ça se vendait bien. Mais la Chine a refusé de prendre ça uniquement pour le plastique. Alors qu'on a déjà négocié un contrat de 7 ans, on ne peut plus encore retourner, s'asseoir avec la ville et renégocier notre contrat. La ville dit, c'est votre problème. Vous voyez ? Donc, pour finir, quand j'étais petit à Lomé, ma maman me donnait un sac. C'est souvent en nylon ou bien en raffia. Tu vas au marché, tu achètes, tu ramènes le sac, vous accrochez ça. On n'a pas besoin de plastique. Maintenant, il y a des petits sachets partout à Lomé qui polluent la ville, qui polluent l'Afrique. Bon, un jour, quand on rentrera pour monter une compagnie de poubelles, on va essayer d'entamer le problème. Mais je peux vous dire déjà que le plastique va être un problème. Et ça demeure un problème jusqu'à présent. Il faut juste l'éliminer. Vous allez dans un supermarché, vous prenez le papier comme un sac. Ou bien amenez votre propre sac que vous réutilisez. Je suis un dispatcher. C'est moi qui envoie les chauffeurs, les camions pour aller nettoyer les villes. C'est mon métier, ça. Donc, des fois, quand on va parler des communautés, on les éduque à utiliser des sacs qui sont réutilisables. Donc, c'est très facile à faire. On doit tous faire ça, éliminer le plastique complètement. C'est pas impossible. OK ? Bisous.
C'est pas impossible. Merci Fadel pour ce message, qui travaille dans une compagnie de poubelles sur la côte ouest des États-Unis, un compatriote togolais. Et nous sommes en ligne avec Edem Dalmeda, chef d'entreprise au Togo. Bonjour Edem Dalmeda.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux auditeurs, bonjour Nathalie. Donc,
vous avez entendu le message de cet auditeur. Vous êtes directeur général de Africa Global Recycling, une entreprise donc basée au Togo, qui est présente dans la sous-région, qui est spécialisée dans la gestion, le recyclage, la valorisation des déchets. Peut-être un mot de réaction par rapport à ce que vous avez entendu de cet auditeur qui vit aux États-Unis.
Non, il a parfaitement raison. Et je trouve dommage qu'il soit si difficile de retourner aux fondamentaux. Je vais aborder dans le même sens, et l'invité a également dit la même chose tout à l'heure. Il fut un temps où, et nous, notre génération y a participé, où nous étions punis parce que nous n'allions pas chercher, nous n'allions pas au marché avec le panier, ou nous n'allions pas chercher le pain avec le sac à pain. Pourquoi il est si difficile de revenir simplement en arrière? Et sur la question des plastiques, on pourra aussi l'aborder. C'est au-delà de la question de leur recyclabilité. Le problème a permis d'installer, de mettre en place sur le continent africain et ailleurs, une vaste escroquerie que j'appelle intellectuelle, économique et industrielle, du soi-disant biodégradable qui en fait ne l'est pas. Mmh. Et je pense que Nathalie Gontard l'a dit très clairement, le plastique devient dangereux quand on ne le voit plus, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, il faut une dose de volonté, de pratique.
Justement, vous, comment vous travaillez? Parce que parmi les déchets que vous travaillez, que vous triez, que vous valorisez, il y a aussi du papier, du métal, du verre. Quelle est la part du plastique?
La part de plastique, elle est aujourd'hui en forte proportion, en forte augmentation, pardon. Nous sommes à plus de 60% aujourd'hui de plastique valorisé, pour plus de 2000 tonnes valorisées sur l'année. Voilà ce que ça représente. Mais nous sommes nous-mêmes confrontés à un certain nombre de problèmes. Le plastique, tous les plastiques ne se valent pas. Et on se rend compte que le consommateur et les exigences du consommateur amène le fabricant à fabriquer d'autres plastiques, les uns plus complexes que les autres. Ça, c'est aussi une réalité du métier.
Quand vous dites, Edel Dalmeda, que parmi les déchets que vous triez, que vous valorisez, il y a à peu près 60% de plastique valorisé. Qu'est-ce que vous appelez valorisé? Qu'est-ce que vous en faites de ce plastique?
Alors, aujourd'hui, nous sommes exclusivement dans le process d'une valorisation matière, comme on l'appelle, c'est-à-dire de trouver des solutions pour recycler à partir du vieux plastique que nous récupérons, de refabriquer de nouveaux produits en plastique. Ça, c'est une solution.
Sur place, au Togo?
Oui, alors nous sommes plutôt sur un marché international, au niveau grand export, principalement sur l'Europe, mais nous développons depuis 2 ans un marché régional et un marché local. Le problème, c'est que les solutions industrielles ne sont pas toujours en phase avec les besoins de valorisation de certains plastiques.
Quand vous parlez d'export vers l'Europe, c'est parce que une grande partie des pays d'Asie qui accueillaient des déchets plastiques ont fermé leurs frontières à ces déchets.
Moi, depuis 2008, depuis la crise de 2008, j'ai toujours cru que le modèle chinois allait s'arrêter. Et depuis les années 70 que cela dure, il fallait bien au moment où ça s'arrête. Et nous n'avons pas suffisamment, en Occident en tout cas, tiré les leçons de cette crise de 2008. Nous avons, depuis l'origine, depuis la création d'AGR, misé plutôt sur le développement d'abord de filières locales, mais également sur le développement plutôt de produits à forte valeur ajoutée pour le marché européen. C'est là où nous en sommes et c'est l'essence même du travail que nous faisons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le respect des normes environnementales et dans le respect des normes qui sont industrielles, pour la qualité des produits que nous faisons, nous arrivons à pénétrer le marché européen.
Nathalie Gontard, vous souhaitez questionner Delme d'Almeida ?
J'ai beaucoup apprécié l'idée de retourner aux fondamentaux, la difficulté de retourner aux fondamentaux, en effet, hein, c'est vrai que c'est très difficile, puisqu'on le vit comme un retour en arrière. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la façon dont vous parlez de votre retransformation. C'est une valorisation matière. Merci de ne pas parler de recyclage, parce que il ne s'agit pas de recyclage. Hein. Le recyclage consisterait à régénérer la matière à l'identique, et je pense que pour l'instant, personne ne sait le faire, hein, en tout cas au niveau industriel. Donc là, j'imagine qu'il s'agit plutôt de retransformer en d'autres objets. Mais du coup, je me dis, moi, quels sont ces objets et quel est leur devenir ? Et est-ce que le fait de retransformer un plastique dégradé en un autre objet peut vraiment résoudre les problèmes d'impact environnementaux du plastique, c'est-à-dire leur transformation en micro et en nanoplastique ?
Eden d'Almeida.
Alors, je vais totalement être honnête et transparent avec vous. Je le dis et cela surprend, je ne suis pas un écologiste. Mon métier, bien que participant à un certain assainissement, nous allons appeler cela comme ça, ne me permet pas aujourd'hui de revendiquer une certaine posture écologique. De par mon activité industrielle, de par la matière que je récupère. Mais très clairement, les solutions telles que nous l'attendons n'existent pas. Et les solutions n'existent pas à plusieurs échelles. Il y a la question des réglementations internes dans nos pays. Il y a la question des solutions industrielles qui ne sont pas en adéquation avec ce que nous consommons, ni même ce que nous produisons, et que par là même, il faut aborder la question différemment. Cette question que nous apportons différemment sur la question donc du recyclage ou de la récupération, et ça, c'est la ligne que je défends, doit passer nécessairement par la prise en compte de la dimension culturelle, sociale et éducative dans nos pays et sur notre continent.
En gros, Eden d'Almeida, vous n'avez pas intérêt à ce que le plastique disparaisse, hein, puisque c'est 60% de ce que vous recyclez. Ceci dit, on pourrait imaginer que si à la place des emballages plastiques, demain, il n'y avait que du carton et du papier, par exemple, et du tissu, vous auriez autre chose à recycler, ceci dit. Je voudrais qu'on donne la parole à Mélanie Grignon, qui est en ligne avec nous, qui est responsable d'équipe projet gestion des déchets, aménagement urbain à l'AFD, qui est l'Agence française de développement. Bonjour Mélanie Grignon.
Bonjour à tous.
Merci d'être en ligne avec nous. Je voudrais que vous nous expliquiez comment l'AFD travaille à financer des projets de centres d'enfouissement, puisque ces matières plastiques, quand elles ne sont pas retransformées, il faut bien en faire quelque chose. Comment vous travaillez, notamment dans des pays où vous êtes présents, comme le Togo, la Guinée, le Sénégal et d'autres pays ?
Oui. Alors, ça ne concerne pas d'ailleurs que les centres d'enfouissement technique, hein, puisqu'on est bien conscient des problèmes que pose la transformation ou le recyclage des matériaux, on l'appellera comme on veut. Nous, on a des actions qui consistent tout d'abord à travailler sur la prévention. On est vraiment calé sur le mode de hiérarchisation recommandé par l'Union européenne. Hein. Donc, dans tous les programmes, on finance des actions de prévention.
Qu'est-ce que vous appelez prévention ?
Alors, prévention, c'est justement éviter les consommations, alors là, dans le cadre des plastiques, de plastique. Comment on évite
concrètement,
ce type de consommation ?
Comment vous faites pour éviter la consommation de plastique dans les pays où vous êtes présents, notamment sur le continent africain ?
Alors, l'idée, c'est de s'appuyer en général sur des ONG locales. qui vont voir les ménages et qui font justement de la sensibilisation sur ces sujets. On peut avoir des actions dans les écoles également pour faire en sorte que les gens typiquement consomment moins de sacs plastiques, consomment dans leur quotidien moins de plastique. On a l'équivalent en Europe, hein, par ailleurs. Après, nous, c'est vrai que notre gros sujet, c'est qu'il faut garder en tête que, en Afrique notamment, vous avez en général un déchet sur deux qui n'est pas collecté. Donc, ça veut dire que tous ces déchets finissent dans l'environnement. Et on a aujourd'hui 8 millions de tonnes de plastique qui sont rejetées typiquement chaque année dans les océans. Donc au-delà du sujet, et je rejoins les interlocuteurs hein, sur la nécessité de diminuer les plastiques, la consommation de plastique, on a un vrai sujet de traitement des déchets en soi, de collecte.
Ça veut dire que pour vous, l'urgence, c'est la collecte et les centres d'enfouissement.
Alors pour nous, l'urgence, oui, c'est ça, parce que la difficulté, c'est que les changements de mode de consommation mettent énormément de temps à se produire. Et là, on est face à une urgence qui est une urgence sanitaire et une urgence environnementale. Mmh. Et donc, on se doit de financer des infrastructures de base, parce qu'au-delà des plastiques, par ailleurs, on a tout un tas de déchets qui finissent dans l'environnement et qui polluent les rivières, les océans.
Si on tient compte de la croissance urbaine dans les villes africaines, un centre d'enfouissement, en moyenne, ça arrive à saturation au bout de combien de temps, Mélanie Grignon?
En général, un centre d'enfouissement technique, il est construit pour 20-30 ans. Mmh. Donc, tout l'enjeu, justement, de travailler sur d'autres volets, tels que la valorisation des déchets, la prévention, c'est de faire en sorte de garder la durée de vie de ces centres d'enfouissement technique au maximum.
Qu'est-ce que ça veut dire garder la durée de vie au maximum?
Ça veut dire essayer d'enfouir de moins en moins, de diminuer la production de déchets à la source. Donc, ça peut être les consommations, mais c'est aussi, par exemple, faire du compostage individuel pour éviter de mettre des tonnes dans cette décharge.
Et pour donc, le plastique, ça ne marche pas, on est d'accord, hein, le compostage. Pour le moment, ça concerne une extrême minorité des plastiques qui sont compostables.
Oui, tout à fait. Et je rejoindrai les interlocuteurs. Je pense que quand on parle de plastique, il faut bien distinguer les différentes résines. Vous avez un certain nombre de résines qui sont transformables, voire recyclables, hein, dans le cadre de ce qu'on appelle le PET, donc c'est le polytéraphthalate d'éthylène, qui est le plastique utilisé dans les bouteilles. Mais vous avez en fait les trois quarts des plastiques qui aujourd'hui ne sont pas recyclables.
Edel Dalmeda, qu'est-ce que vous répondez à une politique d'enfouissement des déchets plastiques?
Moi, je vais être aussi direct que je sais l'être. Je pense que l'AFD se plante et je pense que l'AFD continue de se planter. Pourquoi? Pardonnez-moi d'être aussi franc, parce que la question de la prévention, je vais vous le démontrer en trois points. La première question, celle de la prévention, elle est fausse. L'approche, elle est fausse parce que aujourd'hui, si vous prenez la composante sociale, la dimension sociale dans nos territoires, il est complètement aberrant d'aller voir nos ménages et dire trier vos déchets ou bien récupérer, n'utilisez pas tel plastique parce que c'est mieux pour la planète. Parce que ce n'est pas ça le problème et nous n'avons rien à faire. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous vêtir, de nous soigner, c'est de nous sentir mieux et de mettre nos enfants à l'école. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, sur l'urgence de la collecte, je pense que c'est véritablement un faux problème. Pourquoi c'est un faux problème? On est amené à une incongruité qui est pensée exclusivement pour l'Afrique, d'ailleurs, qui parle de pré-collecte. Un mot barbare, soit on collecte, soit on ne collecte pas, mais on ne fait pas de pré-collecte. Et la pré-collecte nous a conduit à enlever en urgence et à cacher un peu nos problèmes, c'était l'objectif, de les ramener sur les décharges et ensuite dans des centres d'enfouissement. Sans prendre en compte, là encore, la dimension, la définition même de notre déchet. Dans nos déchets, nous avons aujourd'hui 50 à 60% de sable. Ces sables composent aujourd'hui un élément fondamental pour mettre un frein et réduire nos centres d'enfouissement, la durée de vie de nos centres d'enfouissement.
Attendez, Edel Dalmeda, vous êtes en train de nous dire que dans les déchets des ménages, dans une ville comme Lomé, il y a pratiquement autant de sable que de plastique, ou pas?
Il y a plus de sable que de plastique. 50 à 60% du poids de ce que nous transportons pour nos centres d'enfouissement sont composés de sable.
Parce que quand, ça, on, balaye la, quand on balaye la cour d'une maison pour mettre tout à la poubelle, on balaye, il y a du sable et on met tout ça en même temps à la poubelle, en même temps que les déchets ménagers. C'est ça que vous voulez dire?
Exactement, exactement. Et donc, il y a une pratique culturelle à prendre en compte et surtout l'AFD, mais d'autres partenaires au développement, ne prennent pas en compte. Dans la dimension, dans nos déchets, nous avons à peu près à peine 10-11% de recyclables. Voilà la réalité, parce qu'à la source, quand on connaît le déchet africain, à la source, il y a déjà un tri qui s'opère. Mais au-delà de ça, je reviens encore à ce besoin dont nous, qui est essentiel pour nos États, c'est que le modèle économique qui doit accompagner ces centres d'enfouissement ou la définition du process de collecte n'est pas en phase, puisque les centres d'enfouissement aujourd'hui ne sont financés que sur des subventions ou sur de la dette, ce qui met en péril la continuité, la pérennité de nos projets, sachant déjà la question du sable. Et le troisième point, c'est que si nous prenons en compte la dimension sociale, nous comprenons, et en connaissant le défi africain, qu'il y a déjà des milliers d'emplois qui existent entre la collecte et le centre d'enfouissement. Et ce que les partenaires au développement font, c'est aujourd'hui de les occulter totalement. Or, c'est là où va s'opérer le tri. Nous, aujourd'hui, nous en avons une centaine aujourd'hui qui travaillent et à qui nous fournissons un certain nombre d'accompagnements. C'est là où il faut travailler, parce que le tri à la source en Afrique doit être une réalité et le problème ne pourra être résolu qu'à ce niveau-là. Or, nos centres d'enfouissement, et je finis là-dessus, sont divisés aujourd'hui par deux, avec les milliards que ça engrange, et alors même que nos États, nos collectivités ne disposent même pas encore de compétences techniques et ne sont pas capables de proposer leur propre modèle de gestion ou des modèles de gestion adaptés à leur territoire, aux partenaires de développement et à l'AFD. Voilà là où je voudrais apporter une clarification sur le modèle qui est aujourd'hui imposé dans les pays et qui ne sont pas du tout en phase et qui ne règlent pas le problème. Et il est temps qu'on en prenne conscience pour faire ce qui doit être fait.
Merci Edem Dalmeda, on a bien compris vos arguments. On va revenir sur le plastique parce que vous le disiez, bon, il y a une nécessité absolue de repenser un modèle économique. Vous n'êtes pas d'accord avec le modèle des centres d'enfouissement qui répondent néanmoins à une urgence. Mais quel est le modèle économique, et voire le modèle d'ingénierie concernant le plastique, Nathalie Gontard? Parce qu'à l'heure actuelle, dans les pays où, après tout, on peut dire que les Africains ont le droit de ne plus voir la pollution du plastique puisqu'ils sont très gênés par cette pollution plastique. Nous, on ne la voit pas, on a mis le problème sous le tapis, donc on se dit qu'il n'y a pas de problème. Quelle est, Nathalie Gontard, comme à l'heure actuelle, quelles sont les solutions? On a du traitement des déchets en Europe par des centres d'enfouissement, on a de la combustion. Quelles sont les solutions?
Alors, avant de revenir sur les solutions, je voudrais juste revenir sur ce qui vient d'être dit et clarifier le fait que la collecte et l'enfouissement ne résout absolument pas les aspects d'impact environnementaux du plastique. Hein. L'enfouissement, c'est tout simplement un immense trou que l'on va bâcher avec du plastique, hein, et dans lequel on va stocker ces déchets qui finiront eux aussi en microplastique et à polluer notre environnement. Donc c'est juste du stockage, mais ce n'est absolument pas du traitement de déchets plastiques. Le déchet plastique ne disparaît pas. Ensuite, la réduction à la source, bien entendu, c'est super important. Il est un peu dommage de sensibiliser uniquement les ménages. Je pense qu'on devrait mettre quand même l'accent sur la sensibilisation des acteurs économiques qui ont, eux,
les industriels,
les moyens, voilà, et donc avec l'opportunité de créer des emplois pour justement résoudre ce problème. Et puis ensuite, dans toutes les solutions, il y a toutes les nouvelles technologies, hein, qui arrivent et qui sont en cours de développement, le recyclage, certains recyclages, les trois quarts du temps c'est du décyclage, on parle aussi de pyrolyse, hein, il y a des essais de pyrolyse, transformation du plastique en énergie, voilà. Donc je pense que toutes ces solutions sont importantes, mais pour moi, la solution majeure, c'est quand même de réduire notre consommation de plastique, c'est clair. C'est ce que j'appelle fermer le robinet. On ne peut pas continuer à développer tout un tas de solutions, à collecter, trier, mais trier aussi pour faire quoi, hein, si on n'a pas des solutions vraiment efficaces derrière. Donc, toutes ces solutions...
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le plastique est brûlé, ça n'est pas non plus une solution. On ne fait pas disparaître le plastique.
Alors, quelque part, on fait, lorsqu'on incinère le plastique, lorsqu'on le brûle, on fait disparaître le risque lié au microplastique, mais par contre, on fait apparaître d'autres risques liés à la production de gaz à effet de serre, de composés volatiles toxiques, etc. Donc, quelque part, c'est un peu la peste et le choléra.
Oui. Hein. Donc, l'enfouissement ou la combustion.
Voilà, la peste du réchauffement climatique contre le choléra de la pollution aux particules fines.
Pourquoi, à l'heure actuelle, juste pour terminer de répondre à Edel Dalméda, et ensuite on va donner la parole à Mélanie Grignon, mais pourquoi le recyclage, puisque l'AFD d'ailleurs croit aussi beaucoup au recyclage, pourquoi le recyclage, en gros, vous dites que dans votre livre, c'est de l'enfumage total, un enfumage auquel a participé largement la Commission européenne, les institutions européennes?
C'est un optimisme forcené, hein. C'est-à-dire qu'on aurait envie de pouvoir recycler le plastique, parce que recycler, ça veut dire régénérer la matière.
On ne parle plus que de ça aujourd'hui.
Oui, mais parce qu'on utilise le mot sans savoir ce qu'il veut dire. Recycler signifie régénérer une matière à l'identique une fois qu'elle a été utilisée. Donc ça veut dire qu'on n'a plus d'accumulation de déchets et on n'utilise plus de matières premières, on n'épuise plus notre environnement. Donc on ne le déstabilise pas. Le plus bel exemple de recyclage, c'est le cycle naturel du carbone de la matière organique, la feuille qui tombe de l'arbre et que vous retrouvez au printemps d'après. Là, c'est le recyclage parfait. Le verre, le métal, c'est quasiment aussi parfaitement recyclable. Le plastique ne l'est pas parce qu'il sera forcément dégradé. Le meilleur recyclage industriel du plastique qui existe, c'est celui du PET, des bouteilles de polyéthylène terephthalate.
Mais les bouteilles transparentes, hein, c'est ça.
Voilà, mais qui n'est réalisable que sur un cycle parce que le plastique se dégrade. Donc, on a à peu près 30% de dégradation du plastique ou des additifs qu'il contient. Hein. Donc il faut le décontaminer, il faut le repolymériser. On arrive, c'est vrai, à refabriquer des bouteilles.
Mais une seule fois.
Je me dis, on peut parier sur les progrès technologiques et on va peut-être arriver à 2-3 fois. Allez, soyons fous, mais on ne fera pas disparaître. Et surtout, ce n'est valable que pour le polyéthylène terephthalate parce que c'est un polymère qui requiert très peu d'additifs, qui est très résistant à la fois à l'absorption de polluants et aussi aux températures élevées qu'il faut pour le décontaminer.
La boîte de lingettes que j'ai dans la main, là, hein, puisqu'on a tous des lingettes dans les studios, pas recyclable.
Il faut regarder quel polymère il s'agit. Mais de toute façon, ce n'est même pas la peine de regarder de quel polymère il s'agit. Il n'y a que le PET actuellement qui est recyclable avec d'énormes limites au niveau industriel. Tout le reste, c'est du décyclage.
Alors,
et c'est ce que nous a expliqué Edem, on retransforme en un autre objet. C'est du plastique dégradé que l'on stocke dans un autre objet, qu'on va stocker sous forme de briques qui vont être utilisées pour construire des murs des écoles, alors qu'avant, on utilisait de la terre cuite et qui ne posait pas de problème environnemental. Là, on ne fait pas disparaître le plastique, on le stocke, c'est-à-dire qu'il finira lui aussi sous forme de micro et de nanoparticules.
Il va bien falloir pourtant trouver une solution. La Norvège, l'Allemagne, la Suède, dites-vous dans votre livre, sont des pays champions du recyclage du plastique.
Oui, 20 à 40%, ce qui est fantastique.
Et pourtant, leur consommation de plastique vierge, leur consommation de polymère vierge n'a pas diminué. Comment est-ce possible ?
Parce que ce n'est pas du recyclage. Et d'ailleurs, pour tout dire, moi j'ai envie de vous dire que si on savait vraiment recycler, nous avons accumulé, nous l'avons dit en tout début d'émission, plus de 6 milliards de tonnes de déchets plastiques. Eh bien, utilisons-les. Nous avons presque 20 années de consommation devant nous. Donc, utilisons-les. Si nous savons recycler, nous n'avons plus besoin de fabriquer de plastique vierge. Donc, tout... les mesures de nos efforts devraient être évaluées à la lumière de la réduction de consommation de plastique vierge.
Mélanie Grignon, vous êtes responsable d'équipe projet de la gestion des déchets aménagement urbain à l'Agence française de développement. Vous souhaitez prendre la parole, peut-être répondre à Edem Dalméda et également à Nathalie Gontard.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, par rapport à ce que disait Monsieur Dalméda, peut-être corriger deux points. La première chose, c'est que nous travaillons justement sur la question du sable dans les déchets avec une ONG qui s'appelle NPRO pour diminuer justement les volumes. La deuxième, c'est que nous sommes complètement conscients du fait que des récupérateurs, qu'on appelle nous secteur informel, travaillent sur ce volet et on essaye au maximum de les intégrer dans la filière. Donc je ne pense pas que l'AFD soit totalement à côté de la plaque. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que imaginer qu'on puisse tout trier et tout recycler est un leurre. Donc, de toute façon, il nous faut un exutoire final. Donc, on ne pourra jamais se passer de son enfouissement technique ou d'incinérateur.
C'est une réalité.
Et enfin, je voudrais quand même rajouter un point, parce que ça, moi, je l'entends beaucoup en Afrique et je pense que c'est un gros problème. La gestion des déchets, c'est une source de coûts. Et ça, je pense que c'est fondamental. On a véhiculé l'idée que dans les déchets, il y avait de l'or. Alors, tout est recyclable, voilà. C'est totalement faux. C'est un service public.
Sous-entendu, il faudra dépenser de l'argent, y compris pour les citoyens, pour gérer les déchets. Et là, c'est bien au-delà du plastique. Hein. On est bien d'accord, Mélanie Grignon. Juste une question naïve. Un centre d'enfouissement, ça fait quelle surface et qu'est-ce que, comment c'est construit? Les parois du centre d'enfouissement, bon, c'est un trou dans la terre, hein, dans le sol, on est d'accord, mais c'est fait en quoi?
Alors, les décharges contrôlées, en fait, donc ce qu'on appelle nous les décharges contrôlées, c'est effectivement des trous dans lesquels on met des espèces de systèmes de bâches.
De bâches en plastique. C'est-à-dire, pour un centre d'enfouissement, déjà, on commence par utiliser donc des centaines de mètres carrés de bâches plastiques, des milliers même plutôt.
Oui, tout à fait.
Alors, ce qui pose problème, je pense, c'est pas l'utilisation des centaines de mètres carrés de plastique. C'est que ces plastiques vont se dégrader de la même façon.
En combien de temps?
En même temps que les plastiques qu'ils contiennent.
En combien de temps?
Alors, tout dépend du sol, du type de plastique, de son épaisseur, etc. Ça pourra prendre 5, 100, 200 ans. Ça dépend. 50 ans, 100 ans, 200 ans. Mais au bout d'un moment, quand ces bâches seront dégradées, elles ne pourront plus retenir tous les plastiques qu'elles contiennent. Donc, tout ça, c'est juste des espèces de bombes à retardement.
Quand on fait un sondage, Nathalie Gontard, qu'on met une sonde pour aller voir comment se comporte le plastique au bout de 50 ans dans un centre d'enfouissement, qu'est-ce que ça nous révèle?
On ne le fait pas. On n'a pas envie de le savoir.
On n'a jamais mis de sonde dans un centre d'enfouissement sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur.
Pas à ma connaissance. Non, moi, j'en rêverais.
Mélanie
Ouais, peut-être pour réagir. Je pense qu'on est focalisé complètement sur les plastiques à travers cette discussion.
Ah bah, mais l'émission tourne sur le plastique aujourd'hui.
La gestion des déchets, il y a d'autres problématiques. Oui, c'est-à-dire que quand on fait des centres d'enfouissement technique, c'est notamment pour éviter les pollutions environnementales des déchets et des jus de déchets. Ouais. Alors après, moi, c'est là que je voudrais dire que je ne suis pas en contradiction avec ce que disent les interlocuteurs
sur la nécessité
de diminuer la consommation de plastique, etc. Maintenant, il y a une réalité, c'est que la consommation de plastique est intimement liée à notre société de consommation. Donc, à un moment, c'est comment on remet en cause ou pas cette consommation. Est-ce qu'elle est remise en cause, notamment dans les pays émergents et en développement? Et en attendant, il faut des solutions de traitement.
Oui, en attendant, il faut des solutions de traitement. Mais Nathalie Gontard, vous nous le disiez, il y a un moment donné aussi où quand il y a une inondation, les serpillières ne sont pas suffisantes. Il faut peut-être songer à couper l'arrivée d'eau ou en tout cas à diminuer le volume.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, bienvenue.
Nous sommes en ligne avec un auditeur qui nous appelle au 33 7 64 45 51 41. Joël est en ligne de Libreville au Gabon. Bonjour Joël.
Bonjour Manuel Bassi, bonjour chers voisins.
Vous êtes le bienvenu Joël, on vous écoute.
Oui, en fait, qui me concerne à une plus petite échelle, c'est-à-dire l'échelle des ménages, j'utilise des pailles en plastique pour limiter l'impact sur l'utilisation des plastiques à usage unique.
Vous utilisez des pailles en quoi? En plastique?
Des pailles en bambou.
Ah, pardon. D'accord, vous avez dit plastique. D'accord.
Oui.
D'accord. Comment sont fabriquées ces pailles localement?
Oui, ces pailles sont fabriquées localement par une petite entreprise qui a été mise sur place par un ami à moi.
Mmh.
Oui.
Et qui fabrique aussi d'autres types d'emballages pour limiter le plastique?
Oui, il y a des sacs biodégradables qu'on appelle communément chez nous au Gabon des sacs à tissu.
Des sacs en tissu, d'accord, donc pas des sacs en plastique. Mmh. Et est-ce que ces filières de nouveaux emballages sont valorisées ou pas, intéressent les pouvoirs publics?
Oui, c'est vraiment valorisé au niveau du Gabon, en particulier à Libreville, la capitale. Parce que les gens ont déjà pris conscience de la problématique, autant pour moi, sur l'impact du plastique sur l'environnement. Mmh.
Merci Joël, en tout cas, d'avoir apporté une lumière sur ces types d'emballages. Il faut préciser que dans de très nombreux pays du continent africain, les sacs plastiques sont interdits sur le papier. On a encore beaucoup de sacs oxo, comment vous appelez ça, Nathalie Gontard,
oxo-dégradables,
qui libèrent en réalité des particules.
En fait, ce sont des plastiques dans lesquels on a rajouté des additifs pour accélérer cette fragmentation qui a lieu pour tout plastique. Hein.
On ne les voit plus à l'œil nu ensuite, mais ils sont toujours là.
C'est ça, on ne les voit plus à l'œil nu. Donc là, on ne collecte pas, on n'enfouit pas. On met directement un additif pour qu'ils disparaissent de notre vue. Là où on a du mal souvent à comprendre, c'est qu'on assimile la pollution plastique à une pollution visuelle. Or, le plastique, il est dangereux quand on ne le voit plus, dès qu'il devient un micro ou un nanoplastique.
Que pensez-vous du travail sur les emballages non plastiques, c'est-à-dire de retourner à des emballages plus traditionnels. Vous aviez fait tout un travail à l'époque au Bénin sur
les emballages feuilles végétales. Oui, c'est vrai qu'il y avait énormément. En fait, il y a des tas d'autres matériaux qui peuvent être utilisés. Alors, le plastique, on le ramène à l'emballage, c'est pas que de l'emballage. Il y a des utilisations où le plastique, c'est vrai, est vraiment indispensable, et puis d'autres, c'est pas du tout le cas. Hein. Et entre autres, pour l'emballage des produits alimentaires, moi, je me suis pas mal battue pendant pas mal d'années au sein du CIRAD, hein, du Centre international de recherche agronomique pour le développement, pour promouvoir, pour essayer de maintenir à flot l'utilisation de ces matériaux naturels qui sont des feuilles végétales qui sont utilisées dans toutes les régions tropicales pour emballer les produits alimentaires et qui étaient en passe d'être remplacés à l'époque, donc c'était dans les années 90-2000, qui étaient en passe d'être remplacés par des plastiques et qui l'ont été. Alors peut-être qu'on peut demander justement à...
Alors justement, Mélanie Grignon, est-ce que vous pensez qu'il faudrait, je sais que vous aidez beaucoup l'économie informelle du recyclage, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, ou plutôt, je ne sais pas, aider l'économie informelle à produire des emballages sans plastique, notamment revenir aussi, pourquoi pas, à des emballages traditionnels?
Bah, ça me semble être une bonne idée. Après, là, on dépasse mon domaine d'intervention qui est la gestion des déchets, mais on est effectivement sur du développement économique local, en fait. Donc, ça me semble plutôt pertinent. Après, c'est une vraie réflexion à avoir avec les municipalités, les gouvernements. Il y a tout un volet aussi, c'est quelle est la réglementation en place. Finalement, on voit que dans l'Union européenne, on a réussi à avancer quand même pas mal sur ces sujets avec la réglementation. Il y a beaucoup de pays, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des plastic bans, donc c'est en théorie des interdictions de plastique à usage unique notamment, qui ne sont absolument pas appliquées. Donc la législation et l'application de la législation, c'est aussi un énorme enjeu.
Alors vous parliez de l'Europe, Nathalie Gontard. Vous nous dites plutôt dans votre livre que la stratégie européenne pour une économie circulaire, c'est-à-dire d'accélérer absolument le recyclage, on va dans le mur.
Oui, moi ce que je dis surtout, c'est
ces
réglementations, enfin ces efforts, ces stratégies, on va dire, ont été mises en place sans qu'il y ait une réelle compréhension sans qu'il y ait une bonne compréhension de la réalité technologique qu'il y avait derrière. C'est-à-dire qu'on a utilisé ce terme recyclage en se disant, ben on pourra certainement l'appliquer au plastique, on va se débrouiller pour l'appliquer. Or, on ne sait toujours pas l'appliquer. Donc tout miser sur le recyclage, c'est vrai que pour moi c'était quand même quelque chose d'assez inconscient.
Bon, demain, l'avenir, c'est peut-être d'augmenter les prix du plastique pour chercher d'autres solutions, mais là aussi, il faudrait une taxe sur les plastiques vierges. C'est pas demain, la veille. Merci beaucoup à
Et
vous, Nathalie Gontard.
Restons positifs, optimistes.
Plastique, le grand emballement, c'est publié chez Stock. C'est passionnant, c'est très clair, avec un lexique à la fin pour bien faire la différence entre les différents plastiques. Merci à vous, Edem Dalmeda, d'avoir été en ligne avec nous, directeur général de Africa Global Recycling au Togo. Et merci à vous, Mélanie Grignon de l'AFD. On a tenté de poser les problèmes tels qu'ils sont aujourd'hui. Lundi, 7 milliards de voisins, nous serons de retour pour une nouvelle émission. À lundi, les voisins.
« 7 milliards de voisins, c'est fini !»